Ce hors-série est proposé par Uniqlo et sa philosophie Lifewear. Dans la culture japonaise, l'harmonie est un concept fondamental que l'on retrouve décliné sous des formes bien diverses. Au cœur de la philosophie zen, on retrouve le kanso, la sobriété. Si le paysage urbain s'inscrit si bien dans son environnement naturel au Japon, ce n'est pas le fait du hasard. Tout y est méticuleusement affiné, peaufiné, dans les moindres détails. Les charpentiers utilisent le kigumi, une technique d'assemblage qui se passe du superflu. Les éléments de bois s'assemblent, par leur forme, sans clous ni colle. Au Japon, la simplicité est exprimée partout, dans les règles de l'art. Parce que l'art, du moins, nous permet de vivre plus, Uniqlo vous propose Vivre Léger, votre podcast dédié au minimalisme japonais.
Vivre léger. Karuku ikiru.
Aujourd'hui, nous allons partir à la découverte de l'expression de cette finesse et de cette efficacité à travers les récits de nos invités. Lise Billon, Misa Takeno, Yoshiki Hase, Sophie Lac, Mariko Mori, Eric Pillo, Yukihiro Katsuta, Shun Narise, ils sont guides de haute montagne, alpinistes professionnels, psychologues cliniciennes, photographes, psychanalystes, artistes, directeur artistique, graphiste, photographe, directeur général du groupe Fast Retailing et directeur du pôle recherche et développement chez Uniqlo et chef cuisinier. Voici leur témoignage.
Alors, je suis allé pour la première fois au Japon il y a un peu plus de 15 ans.
Eric Pillo, directeur artistique, graphiste, photographe.
Ça aurait pu se faire avant. Ça ne s'est pas fait avant. J'y suis allé évidemment pour le travail. J'ai eu la chance d'y rester pour la première fois plus d'une semaine. Et ça a été une telle claque, une telle gifle. En tant qu'adulte, la découverte du Japon a pour moi été insensée. Voilà, à tel point que j'ai eu besoin d'y retourner immédiatement après, quelques mois après, et que depuis ce premier voyage, ça va paraître obsessionnel forcément. Mais j'y vais plus de 4 fois par an depuis plus de 15 ans. Ce qui fait que je sais répondre à une question qu'on m'a encore posée l'autre jour. Un ami m'a demandé si ça faisait combien de fois ça faisait que j'allais au Japon, si ça faisait une trentaine de fois. J'ai dit « Ah non, c'est assez simple de calculer. » Ça fait 15 ans, en moyenne 4 ou 5 fois par an. Donc je pense que ça fait plus de 60 fois. Avant que j'aie un visa et que j'aie la maison, j'avais le visa de touriste qui donc au Japon, qui est très très beau parce que à chaque fois qu'on passe la douane, on a une sorte de grand tampon très beau, mais qui prend beaucoup de place. J'étais obligé de changer de passeport une fois à cause de ça. Quand je pense à la simplicité japonaise, je pense surtout à l'art de vivre, la manière qu'ils ont de vivre ensemble, le rapport qu'ils ont les uns aux autres, qui rend la vie, d'une certaine manière, simple à vivre, je trouve. Il ne faut pas confondre, évidemment, simple et simpliste. Ce qui souvent, comme la plupart du temps, pas qu'au Japon, mais en général, paraît simple, et souvent quand même un petit peu compliqué. C'est justement toute cette simplicité qui découle de quelque chose qui a été très, très, très élaboré et très travaillé, forcément, qui rend les choses simples.
C'est vrai qu'au Japon, il y a plusieurs moments où, dans ce pays, et je pense du coup dans sa culture...
Sophie Lac, psychanalyste.
Où on peut repérer des choses du côté du minimalisme ou de la simplicité, notamment peut-être dans... les arts qui habitent ce pays depuis longtemps, donc que ça peut être les arts martiaux, comme ça peut être l'art de la calligraphie, ça peut être l'art de la voie du thé, ça peut être l'art culinaire, les arts en tout genre qui sont souvent liés à des écoles de zen. Si je prends la question de la voie du thé, dans la voie du thé, c'est comment réussir à... comment je pourrais dire, à offrir un moment, à offrir du thé, à préparer un thé le plus simplement possible, si je puis dire, mais pour que ça soit beau esthétiquement, pour qu'il puisse y avoir une rencontre, pour que quelque chose se passe. Justement, il faut beaucoup de technique, beaucoup d'expérience, énormément de savoir-faire et une, je dirais une pointe, voire pas mal de singularité. Parce qu'une fois qu'on a son style, c'est aussi à travers ça qu'on arrive à non pas faire entendre un protocole, mais plutôt quelque chose d'un savoir-vivre.
Kikubari donner de l'attention aux autres, à son entourage.
Je ne suis pas un architecte de formation, mais à Kyoto, je suis tombé amoureux de l'architecture traditionnelle des maisons de Kyoto, particulièrement les machiya. Jusqu'à même en acheter une il y a quelques années. À Kyoto, particulièrement les machiya, l'architecture traditionnelle des maisons traditionnelles japonaises à Kyoto, sont le plus souvent, en grande majorité, très peu larges. La largeur des maisons est souvent très petite. Ça s'explique d'une manière très simple, c'est une question d'impôts. À l'époque, les impôts au Japon, à Kyoto en particulier, étaient calculés sur la largeur de la façade. Donc en fait, il y a un monde, c'est très japonais ça évidemment, il y a un monde entre ce qu'on voit, évidemment, ça se retrouve pas forcément que dans les maisons, ça se retrouve dans plein d'autres choses. Il y a ce qu'on voit de la façade et il y a tout ce qu'il y a derrière. Donc souvent, les machiya cachent, c'est très en longueur, et ça cache souvent quelque chose de beaucoup plus grand et beaucoup plus long que ce qu'on imaginait en façade. Voilà. Mais le plan en lui-même, il est assez simple. C'est une entrée, évidemment, qui donne tout de suite dans une sorte de long couloir ouvert. Donc, dans ce couloir, on retrouve la cuisine. C'est là qu'il y a la plus grande hauteur sous plafond. Et ça distribue toutes les pièces sur le côté qui vont des pièces principales à vivre jusqu'au bout, le jardin et en général la salle de bain et les salles d'eau tout au fond. Les matériaux employés dans ces maisons traditionnelles sont principalement le bois. Comme dans beaucoup d'autres domaines de l'artisanat au Japon, le bois est très très présent. Plus particulièrement, puisque c'est ce qu'on trouve aussi beaucoup au Japon, le cèdre japonais. Et le mien qui est utilisé dans ma maison, c'est du sugi. Donc ça a une odeur très, très spéciale et que moi j'aime beaucoup. Tu retrouves ce cèdre japonais dans tout le... quand ils sont bien faits, dans tous les comptoirs de sushi. Donc c'est pas le même, souvent c'est du hinoki. Mais il est aussi parfumé, surtout dès que tu mets de l'eau dessus, dès que tu le nettoies et que tu l'éponges avec de l'eau, ça diffuse une odeur. L'action de l'eau, l'eau chaude en plus, avec ce bois, dégage une odeur fantastique.
When you look at like the painting,
Mariko Mori, artiste,
the traditional scrolls. Or like calligraphy.
Lorsque vous regardez une toile, un parchemin traditionnel ou encore une calligraphie, c'est très différent des peintures occidentales parce qu'elles prennent vraiment en compte l'espace du vide qui a un sens significatif. Sur une toile ou un parchemin traditionnel, ça signifie que l'espace vide est dominant par rapport à celui qui est peint.
Really has dominant versus what is painted.
Le ma est un vide, un intervalle qui crée une distance.
The idea that I very much admire
Une idée que j'admire particulièrement tient à ce que le bouddhisme zen encourage d'approcher le vide par le biais de la méditation. Et le vide, c'est vraiment cet espace vaste, sans fin et sans limite. C'est vraiment cette idée de vide.
C'est bientôt la saison de Hanami des cerisiers en fleurs.
Éric Pillot, directeur artistique, graphiste, photographe.
Et beaucoup de gens, puisque c'est les vacances d'avril, de Pâques, ils vont souvent à cette période-là au Japon. Oui, donc, le moment des Hanami des cerisiers en fleurs, dont on parle souvent chez nous en Occident, et on en parle beaucoup. Évidemment, au Japon, c'est très important, le bloom. Et en fait, pour les Japonais, le moment le plus important, c'est pas le bloom. C'est le moment où les pétales commencent à tomber. C'est-à-dire une semaine, ça dépend du bloom. Entre une semaine à 10 jours après, les premiers vents... s'il y a une petite pluie ou une grosse pluie, c'est plus embêtant, mais en tout cas, les premiers vents qui font tomber ces premiers pétales, ça, c'est encore plus beau. Voilà. Ce rapport très précis au temps et au moment et à certains instants qui font que je pense que oui, ils sont plus attentifs à toutes ces choses, parfois que nous, je trouve. En tout cas, moi, si j'y vais, ça m'aide à essayer de faire en sorte de l'être un peu plus ici. Bon, après, le rythme revient très vite et on est malheureusement obligé de s'habituer aussi au code chez nous.
We have a habit and a custom in like kindergarten and elementary school.
Yoshiki Ase, photographe.
We have to clean everything myself, even schools.
Ça fait partie de nos usages et coutumes, de la maternelle à la primaire. On nettoie tout par nous-mêmes, même notre école. Et si vous vous rendez à l'extérieur, dans un café ou dans un restaurant, vous devez nettoyer derrière vous. On continue de le faire à l'âge adulte. Et dans ma vie de tous les jours, je nettoie. Je ne suis pas très bon en ménage, mais tout de même, j'essaye de garder les choses bien en ordre, à ma façon. Et aussi, il peut m'arriver de ramasser les déchets laissés par les autres dans la rue. Ça fait partie de notre culture, de nos habitudes. Et c'est un peu les fondations de notre état d'esprit. Shun Narise, chef cuisinier. Moi, je suis spécialisé dans la cuisine française, mais au Japon, je connais très bien la cuisine traditionnelle japonaise. Comme c'est le cas par exemple pour les sushis, on peut dire que c'est un art qui va vers la simplicité. C'est pas parce qu'on dit que c'est simple que ça veut dire que c'est simple à faire, mais c'est juste que c'est ce qui est recherché dans la cuisine japonaise. Dans la cuisine en général, on peut considérer qu'il y a un appel au sens, ça appelle plusieurs registres de sensations. Par exemple, même dans les textures, il y a plusieurs possibilités de textures, au même titre que dans les goûts, on peut faire appel à beaucoup de goûts. Mais moi, dans ma cuisine et dans la manière dont je réfléchis mes plats, je préfère cibler sur une chose plutôt que multiplier les possibles. Donc par exemple, si je souhaite que le point important d'une assiette soit le croustillant au niveau de la texture, eh bien je ne veux pas qu'il y ait de trop une autre texture. Je souhaite que ce soit le croustillant qui soit mis en avant. Par rapport au geste, effectivement, moins il y en a en cuisine et au mieux ça se passe en général, aussi bien pour des questions organisationnelles que pour des questions de technique de cuisine.
Ma mère est japonaise.
Sophie Lac, psychanalyste.
Et du coup, je pense qu'elle m'a transmis énormément la culture du... alors, en japonais, on appelle ça le motainai. Alors, le motainai, c'est un mot qui veut dire « c'est du gâchis ». Donc, en fait, ma mère, elle n'aime pas gâcher. Donc, c'est pas une question idéologique. Elle n'est pas du tout militante. Mais c'est juste qu'elle n'aime pas jeter quelque chose qui est encore utilisable, encore vivant ou encore... comment je pourrais dire ça, qui peut encore servir. Et il y a aussi l'idée qu'elle ne veut pas
que quelque chose soit né ou soit créé ou soit mort pour rien. Donc si par exemple elle achète du poisson ou un légume, elle va toujours essayer de l'utiliser pour que ça soit bon pour la personne qui va manger, mais aussi que tout ce qui était présent puisse être servi à table. C'est quelque chose qu'elle m'a inculqué de ne pas rendre déchet quelque chose qui pourrait encore avoir une importance.
Comment une culture a réussi à ce point à se concentrer sur ses ressources intellectuelles et naturelles?
Éric Pillot, directeur artistique, graphiste, photographe.
Pour développer à ce point dans tous les domaines, que ce soit la musique, les arts, la culture, tout, l'architecture, tout. Cette précision, quand on va au Japon, ce souci du détail, ça peut être qu'inspirant, ça c'est certain. En tout cas, moi, c'est pour ça que j'ai besoin de cette piqûre, je pense, de rappel régulièrement et d'aller au Japon, pas que pour ça, mais évidemment pour ça, parce que c'est une vraie ressource, quoi, voilà, permanente. Ce besoin de Japon, cette envie d'aller au Japon, c'est évidemment pour retrouver ce souci du détail, cette précision à ce point.
Pour moi, vivre léger, alors ça résonne beaucoup plutôt dans ma pratique de l'alpinisme.
Lise Billon, guide de haute montagne, alpiniste professionnel.
Parce qu'on est, on est dans l'ère de ce qu'on appelle le fast and light. Comme dans ma pratique, on est dans du très minimaliste. C'est la course au matériel le plus léger. On coupe des sangles, on prend les mousquetons, on vérifie au gramme près combien ils pèsent pour partir vraiment, pour avoir le moins à porter quand on grimpe et donc être le plus efficace possible. Et puis sauver de l'énergie en fait. Parce que quand on grimpe avec un sac de 25 kg ou avec un sac de 15 kg, ça fait une énorme différence. Du coup, dans la vie de tous les jours, moi, j'aime bien vivre avec, avec pas mal de choses, je crois. J'aime bien avoir mes choses qui me définissent. Pour moi, personnellement, ce que je vais chercher en montagne, c'est une forme d'introspection par rapport à la nature, par rapport à moi-même. Et c'est quelque chose d'énergisant. Et effectivement, dans l'imaginaire, en fait, quand on va en montagne, on s'élève quelque part. On va au-dessus du superflu. On prend un recul un peu sur notre vie d'en bas. Et ça nous permet généralement de rentrer et de revenir à l'essentiel quelque part.
Uniqlo clothing is often considered as basic or simple. But we believe that it's not
Les vêtements Uniqlo sont souvent considérés comme basiques ou simples, mais ce n'est pas si simple justement. Le design et la fabrication sont très profonds. Ce n'est pas suffisant d'être juste simple, basique et d'avoir une bonne qualité de produit. Après tout, il y a une certaine évolution telle que les détails innovants, les designs et les matériaux se doivent être excitants autant pour nos clients que pour nous qui fabriquons des vêtements. Essentiellement, je pense qu'un bon vêtement pour quelqu'un signifie que cette personne le porte souvent. Cela devient un prolongement de son corps et cela devient enfin leur propre vêtement. Si j'applique le lifewear de Uniqlo au minimalisme, je pense que cela consisterait en une philosophie où l'on retire tous les éléments non nécessaires dans le but de créer une pièce parfaite qui garde seulement ce qui est innovant et essentiel.
Invitation à la pratique.
Je vais vous proposer un exercice.
Misa Takeno, psychologue clinicienne.
Réfléchissez bien à la nécessité devant un objet en vous demandant si vous en avez vraiment besoin. Par exemple, devant une paire de chaussures, si vous hésitez à jeter ou vendre en cherchant des excuses comme « Ah, c'était le cadeau de ma copine », je vous conseille de vous demander si vous portez ces chaussures demain pour aller voir vos amis. Il y a plein de critères pour faire le tri des vêtements, mais un des critères importants, c'est que vous portez ou pas.
Ce que l'on retient de cet épisode.
Pour Eric, le rapport à l'autre au Japon rend la vie, d'une manière, plus simple à vivre. Mais pour autant, atteindre la simplicité est un processus très élaboré et très travaillé. Shun Narise a abordé cette approche dans l'art du sushi. Dans sa cuisine également, le résultat recherché, c'est celui de la simplicité. Il privilégie un goût, une texture, pour laisser un souvenir. Si les vêtements Uniqlo sont souvent considérés comme basiques, leur processus de création est très recherché. Utiliser des matériaux innovants et qui durent dans le temps permet d'élaborer des pièces que l'on porte au quotidien longtemps.
C'est la fin de cet épisode, merci de nous avoir suivis. Nous espérons que vous sortez de cette écoute l'esprit léger et la tête pleine de bonnes idées. À très bientôt dans Vivre Léger. Ce hors-série vous a été proposé par Uniqlo et sa philosophie Lifewear.